pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons.
T'as pas une gueule de porte-bonheur.
Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 182. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler de un peu tout ce qui nous passe par la tête, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas enregistré un épisode. Et donc, de l'autre côté du poste, j'ai Benjamin François, aka Quix. Et avant de te lancer la balle, Benji, je tiens à rappeler que c'est notre épisode 182, on a fait un retcon de l'épisode précédent.
On a rétro-numéroté, voilà.
Voilà, il était notre épisode live. Maintenant, on considère que c'est l'épisode 181. Il est complètement canonique. Et si vous voulez comprendre ce qu'on dit, il faut l'écouter. C'est donc l'épisode du live où on a classé pour la première fois les blockbusters en public. Et c'était très rigolo. J'espère que tu en as eu un bon souvenir, parce que moi, c'était vraiment... j'ai été très ému par cet enregistrement. Benji, à toi. Benji, vas-y, raconte un petit peu ta life.
Déjà, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour les auditeurs. J'ai passé un excellent moment à enregistrer cet épisode live. C'était vraiment super. Le public était vraiment chouette. Les gens étaient vraiment sympas. On a bien rigolé en plus. Avec des surprises, hein. Je dois avouer que le numéro 1, quand j'en parle, j'ai des collègues ici qui me demandent « Alors, comment ça s'est passé ?» finalement, c'est quoi le classement final ? Parce que je leur ai expliqué le principe. Quand je leur dis quel est le numéro 1, ceux qui l'ont pas vu comprennent pas, ceux qui l'ont vu font « Ah mais ouais, en fait, c'est vrai que c'était bien. » Et ça nous a un peu pris par surprise. Alors, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode live, je vais pas vous dire qui a fini numéro 1. Mais c'était une surprise quand même, hein, Daniel. On peut dire le top 3, il était inattendu.
Le top 3, ouais, il est inattendu. Moi, je sentais quand je l'ai vu, je me suis dit « Ah ouais, c'est pas mal, c'est vraiment bien. »
Ah non, c'était vraiment bien.
Ouais, c'était vraiment... mais c'est quand, tu sais, quand les films, tu y repenses et tout, et que c'est une note positive, bah, c'est comme ça qui te marque, même s'ils sortent en mars ou en avril.
Ouais.
Et d'ailleurs, on aura l'occasion de parler de films à nouveau, puisque je rentre à l'instant de l'Alpe d'Huez. J'ai à peine laissé ma combi-ski et là, ça y est, je suis devant le micro pour en parler. Mais avant tout ça, avant de parler de l'Alpe d'Huez, il faut parler de quelque chose, Benji. On a reçu beaucoup de messages pour nous demander...
Puis c'est la raison pour laquelle on a mis autant de temps à réenregistrer un épisode aussi, donc il faut qu'on s'explique.
Il faut qu'on s'explique, c'est que normalement, on aurait dû enregistrer bien avant le fameux épisode 182, donc le premier épisode de l'année... mais il s'est passé un truc à Los Angeles, à savoir un énorme incendie ou plusieurs incendies.
Plusieurs incendies, oui. Alors déjà, oui, on devait enregistrer un épisode Top Flop 2024, tu te souviens ? C'était ça qu'on devait faire. Et puis finalement, là, non, on fait plutôt cet épisode à la cool, toi et moi, pour revenir un peu sur les événements. Donc ce qui s'est passé donc la semaine dernière, quand on enregistre, donc c'était il y a 12 jours maintenant.
Ouais.
Le mardi, il y avait donc énormément de vent dans la vallée de San Fernando, qui est donc là où j'habite, là où se situe Burbank, là où se situent d'autres villes comme Glendale, là où se situe North Hollywood, toute une partie de Los Angeles, Sherman Oaks, tout ça, tous des quartiers de Los Angeles. Dans la vallée de San Fernando, il y avait donc ce qu'on appelle les Santa Ana Winds, les vents de Santa Ana, qui sont des vents assez fort, qui en souffle en hiver, des vents assez frais aussi, qui généralement amènent de l'air froid. Là, cette année, on avait des prévisions de rafales de vent assez élevées. Je crois que c'est monté jusqu'à 140-150 km/h. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était ça, pour certaines bourrasques. Et quand il y a du vent comme ça, il arrive que ça cause des petits soucis au niveau notamment des installations électriques, puisque l'essentiel des lignes électriques aux États-Unis sont aériennes, hein, elles ne sont pas enterrées, contrairement à ce qu'on peut voir en France. Elles sont au bout de poteaux en bois, au milieu de tout un tas de maisons en bois, avec aussi de la verdure, de la végétation dans les montagnes de LA, végétation très sèche puisqu'il n'y a pas plu depuis 8 mois. On est dans une période de sécheresse assez intense. Donc, ce petit mélange vent très violent, ligne électrique aérienne, bois partout et broussailles sèches et végétation sèche, ça n'a pas loupé. On a eu plusieurs départs de feu dès mardi, notamment dans les Pacific Palisades, qui est donc un quartier très cossu, très huppé de Malibu, où vivent beaucoup de personnes aisées et de célébrités. Et également au nord d'Altadena. Altadena, qui est une ville qui est située juste au nord de Pasadena. Pasadena, qui est connue notamment parce que c'est là qu'est JPL, le Jet Propulsion Laboratory, qui est un laboratoire de la NASA qui travaille sur tout ce qui est, fuel, en fait. Enfin, tout ce qui est essence et propergol utilisé dans les fusées. Voilà, il y a eu deux incendies majeurs, mais il y en a eu d'autres. Hein. Au total, il y a eu 7 ou 8 incendies globalement qui encerclaient la vallée de San Fernando. Il y a eu un moment où globalement, si je voulais évacuer, si j'avais dû évacuer, j'avais très très peu d'options puisqu'il y avait des incendies tout autour de moi qui bloquaient la plupart des issues, sachant que oui, c'est une vallée, hein. c'est pas pour rien, c'est pas un nom d'emprunt, c'est vraiment une vallée, donc on est entouré par des montagnes, donc évidemment le nombre de routes pour partir est assez limité.
Tu as reçu des ordres d'évacuation, parce que faut le savoir quelque chose, c'est qu'on gardait le contact constant avec Benji. Évidemment, le jour de l'enregistrement, on lui disait « Bon, bah écoute, si tu peux enregistrer, on enregistre, mais si tu peux pas, il y a quand même un risque de mort quand même assez proche. » On gardait le contact régulier et tu m'avais dit « On a reçu quand même des alertes évacuation, mais qui étaient erronées. »
Des fausses alertes, ouais. Moi, à Burbank, je suis dans un coin qui est relativement safe. Normalement, pour que là où je suis, pour que ça brûle, il faudrait vraiment la faute à pas de chance et énormément d'éléments qui font que voilà,
que l'incendie prenne l'avion, quoi.
Quand même pas, mais dans le même temps, le Heat on Fire, celui qui a ravagé la ville d'Altadena et qui a atteint jusque le nord de Pasadena, c'était complètement inimaginable qu'un incendie dévaste la ville comme ça à ce point-là et qu'il arrive aussi bas. Et c'est évidemment les vents qui l'ont poussé aussi bas vers le sud et qui ont fait que des quartiers qu'on pensait complètement hors de portée ont été complètement calcinés et ravagés. Alors, je ne veux pas dire que ce n'est pas une surprise que les Pacific Palisades aient brûlé. Évidemment que c'était aussi... On ne s'attendait pas à ce que ça brûle à ce point-là. Mais ça reste, Malibu, ça reste un coin qui est quand même à flanc de montagne, où c'est moins surprenant, si tu veux. Ça n'en fait pas un événement non plus agréable pour autant. Évidemment que c'est vraiment horrible ce qui s'est produit là-bas, mais c'était moins surprenant. Altadena, c'est vraiment surprenant que ça brûle à ce point-là. Et une conversation qui revenait, que j'ai eue avec plusieurs amis, parce que je connais, j'ai des connaissances personnelles qui ont perdu leur maison, notamment une collègue dont la maison a brûlé, qui fait partie, pas de mon équipe directe, mais qui fait partie de mon département, que je connais très bien. Une personne avec qui je fais du sport, dont la maison a brûlé. Et la discussion qu'on avait, c'est que tu sois riche ou pas, perdre ta maison, c'est un cauchemar. C'est vraiment un événement traumatique. Et là, on est tous égaux face à ça. Riche ou pauvre, perdre sa maison, c'est vraiment horrible. En revanche, maintenant, c'est au niveau de tout ce qui est reconstruction, trouver un nouveau logement. J'ai énormément de sympathie pour tout le monde, mais un peu plus pour les gens d'Altadena qui se retrouvent à devoir chercher un logement face aux gens des Palisades qui n'ont pas les mêmes moyens, si tu veux. Et pour les gens d'Altadena, ça va vraiment être très compliqué parce qu'à l'heure actuelle, alors déjà, on a vu des logeurs faire exploser le prix des logements et alors ça, c'est complètement illégal. La ville de Burbank nous a envoyé un message en disant si vous voyez des propriétaires faire exploser les prix des loyers, signalez-le parce qu'ils les attaqueront en justice pour nous, donc ça c'est bien. Mais également, il y a des guerres d'enchères, en fait, qui ont lieu à l'heure actuelle pour des logements dans des quartiers qui ont été épargnés par le feu. Et là-dessus, les gens d'Altadena, ils peuvent pas lutter, quoi. Je veux dire, quand t'es face à un type qui est riche à millions, c'est extrêmement compliqué. Et j'ai énormément de sympathie pour les gens d'Altadena qui vont galérer. Et puis, pour les gens qui avaient prévu des travaux dans leur maison ou qui ont juste des dégâts légers mais qui doivent quand même réparer, les prix vont exploser pour tout ce qui est matières premières, mais aussi pour tout ce qui est main-d'œuvre dans les mois à venir. Donc ouais, ça va être une période très compliquée pour tout le monde.
On a du mal à s'imaginer quand même des flammes qui passent les routes, qui passent l'autoroute, qui et pourtant c'est ça, hein, c'est qu'avec le vent.
Avec le vent, les cendres,
flammes, elles font des dizaines de mètres. Et...
Les braises aussi volent. Il y a des vidéos assez impressionnantes où tu vois les braises voler à une vitesse avec une violence incroyable. Et chose que j'ai oublié de dire, mais tant qu'il y avait des vents violents, les efforts des pompiers étaient largement amoindris parce qu'ils ne pouvaient plus utiliser leurs hélicoptères, ils ne pouvaient plus utiliser les avions. C'était uniquement du travail au sol. Et quand tu es au sol, quand tu es face à des braises qui se déplacent à 90 km/h, bah, c'est juste pas faisable. Quoi.
Le temps que tu te raccordes à l'eau, le feu, il aura déjà tout fini. Quoi.
Oui, et puis il y a aussi les infrastructures, tout ce qui est eau. Alors, on a entendu énormément de conneries qui ont été propagées, genre les pompiers n'avaient pas d'eau parce que les réservoirs étaient à sec. Ça, c'est pas vrai. Il y a un réservoir qui était à sec parce qu'il était en cours de maintenance. Parce que en même temps, l'hiver, c'est le meilleur moment pour faire les maintenances des réservoirs. Mmh. En principe, en été, c'est là où on a les incendies. Donc voilà, c'est une maintenance qui était prévue depuis longtemps. Mais il y avait d'autres réservoirs qui, eux, étaient pleins. Et ce qui a posé problème, c'est qu'il y a eu une telle demande d'un seul coup sur l'ensemble de l'infrastructure du réseau d'eau, la pression n'y était plus, en fait. C'est qu'on a eu un problème de pression. Parce que une bouche à incendie, c'est censé pouvoir gérer un feu sur un bâtiment, peut-être deux, peut-être trois, grand max, mais pas sur des quartiers entiers, quoi. Donc, malheureusement, on a eu des problèmes de pression d'eau.
Et donc, tu nous confirmes bien que toi et les tiens, vous êtes...
On n'a jamais été en danger direct, on n'a jamais eu à évacuer. On a accueilli des amis qui ont évacué Glendale pendant quelques jours. Mmh. Mais nous, on a jamais eu d'ordre d'évacuation direct, sauf les deux fausses alertes. Donc une à 16h, je crois que c'était le jeudi, et une à 4h du matin la nuit suivante, qui, j'avoue, celle-là, elle était un peu vénère.
Je me souviens d'un hôtel où on était avec... avec ma famille, avec mon fils et Amandine. Et à 2h ou 3h du matin, il y a l'alarme anti-incendie qui se met en route. Et bah, tu sais quoi, quand t'as un gamin, t'hésites pas, quoi. Mais c'était une fausse alerte qui a mis quand même 10 minutes à s'éteindre.
Ouais.
Et genre, bah, tu prends ton gamin dans les mains et tu y vas et tu dégages. Tu prends rien avec toi et tu files. Et en fait, finalement, c'est une fausse alerte. Mais bravo pour ton sang-froid quand même, parce que...
Bah, après, le truc, c'est que quand on a vu l'alerte arriver à 16h,
ouais,
directement, on s'est connecté sur les ressources qui étaient disponibles sur Internet, sur les réseaux, notamment une application qui s'appelle Watch Duty, qui affichait en temps réel l'état des feux, les nouveaux départs d'incendie, qui est une application qui prend les données directement publiques des pompiers, en fait. Mmh. Donc on savait à peu près en temps réel où étaient les nouveaux feux. C'est comme ça qu'on a vu démarrer le Woodside Fire, le Sunset Fire, qui étaient des feux qui étaient un peu trop près pour que je sois complètement à l'aise, mais qui ont été maîtrisés très rapidement. Donc, quand on a eu la première alerte à 16h, on est tous allés sur Watch Duty, on a regardé, on n'a rien vu, et on s'est dit, le message est suffisamment flou pour que ce soit une fausse alerte. Et il a quand même fallu attendre 20 minutes pour qu'on ait la confirmation que c'était une fausse alerte. Mmh. Et en 20 minutes, il y a plein de gens qui ont pu paniquer et partir. Mmh. Et un mouvement de panique, c'est encore pire, en fait. Et à 4h du mat, du coup, quand ça s'est produit et que le message était similaire... Je me suis dit, ça doit être une fausse alerte encore. Donc, pareil, j'ai regardé sur Watch Duty, j'ai rien vu de spécial. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de raison qu'un nouveau feu se déclenche. Donc, voilà, on a gardé notre sang-froid et on est resté sur place. Mais bon, oui, je préfère une fausse alerte, de toute façon. Hein. Même si ce n'était pas cool d'avoir une fausse alerte à 4h du mat, c'est mieux qu'une vraie alerte. Donc,
Et on pense à tous tes amis qui sont dans la panade et qui vont devoir affronter ça. Et c'est sûr, comme tu disais, c'est jamais une bonne... Enfin, voilà, c'est quelque chose d'horrible.
C'est jamais facile, voilà. C'est traumatisant. Voilà. C'était un événement traumatisant. Ouais.
Les balades plus tristes que j'ai faites, moi, c'est dans la garrigue qui avait brûlé, tu sais. Dans les... Et à chaque fois que... Bah, c'est sans pouvoir faire le Idéfix qui pleure devant un arbre, quoi. C'est quand même... C'est une part de nous qui disparaît aussi, tu vois.
C'est ça, parce que même pour les célébrités des Pacific Palisades qui sont riches à millions...
Oui, on a entendu les...
Qui vont retrouver des maisons.
Les Mel Gibson, les Paris Hilton...
Voilà, je m'inquiète pas pour eux, ils vont retrouver des maisons. Mais il y a des souvenirs, il y a des effets personnels, des trucs qui, eux, se remplacent pas, qui ont disparu dans l'incendie. Donc ça, évidemment, c'est assez dur. C'est dur pour tout le monde. Mais ce qui va être compliqué aussi, ça va être le prix des assurances et si les assurances vont accepter de couvrir... Notamment les nouvelles habitations. On l'a bien vu, on a plein d'assureurs privés qui refusent désormais de couvrir des maisons qui sont situées dans des endroits considérés à risque. Donc...
Sympa.
Et donc ouais, donc ça va être la merde pour tout le monde au final.
C'est comme dans Twisters. Twisters, un film visionnaire. En
Moi j'ai trouvé que dans Twisters, que les habitants qui étaient quand même dans une région qui est habituée à se faire dévaster par des cyclones, ils étaient bizarrement peu préparés. Hein, j'ai trouvé globalement.
C'est vrai. Mais Twisters quand même une des bonnes surprises de l'année.
C'est vrai.
Si Stéphane Boulet n'était pas un peu trop de gauche, je pense qu'on l'aurait classé encore plus haut.
Twisters qui a fini devant Furiosa, faut-il le rappeler?
Oui, c'est vrai. J'ai pas la liste devant les yeux, mais oui, c'est vrai.
Ah ben il y a beaucoup de films devant Furiosa, hein, je peux te dire.
Oui, Stéphane a pris un malin plaisir. Et je pense que quand...
Oui, enfin, si t'avais pas été avec lui, Furiosa aurait pas été si bas, Daniel. Hein. Essaye pas de tout mettre sur le dos de Stéphane. Hein.
Ah,
j'étais le seul à défendre Furiosa, moi.
J'étais pas un anti-Furiosa. Est-ce que tu veux parler de bon cinéma?
Vas-y, parle dans la peau du S.
Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple.
Alors, l'Alpe d'Huez, qu'est-ce que c'est ? Je vous le fais chaque année. L'Alpe d'Huez, c'est le festival des comédies, de la comédie française. Alors, ils disent international, mais c'est parce qu'il y a un film canadien chaque année. Mais sinon, globalement, c'est un film
C'est un festival sur les comédies françaises.
Ouais, voilà, festival sur les comédies françaises, même s'ils diffusent deux, trois films... américain, tout ça, mais c'est plutôt des séances pour les enfants, voilà.
Et tu sais que, mine de rien, en venant en France dans l'avion, j'ai vu un film que tu avais vu l'année dernière à l'Alpe d'Huez que tu avais recommandé. J'ai vu L'Esprit Coubertin.
Ah, et alors ?
J'ai vachement aimé.
C'est bien, L'Esprit Coubertin.
J'ai trouvé ça très drôle, ouais.
Ouais, il y avait les mecs de Dava dedans qui font un caméo.
Ouais.
Ils sont très très drôles. Il y a le mec du Palmacho qui joue un odieux politicien du sport qui essaie de coucher avec les jeunes athlètes. Enfin, vraiment, il y a vraiment... Je comprends pas que ce film n'ait pas plus marché avec, franchement, avec l'engouement olympique, mais bon.
Je sais pas, ouais.
Ouais. Mais il y a un film chouette qui n'a pas le droit de montrer quand même les anneaux olympiques. C'est assez compliqué.
C'était chaud, mais ils s'en sont bien sortis quand même.
Ils s'en sont bien sortis. Mais est-ce que... Je vais te poser une simple question. On va évaluer ta culture de comédie française. Où t'en es dans le Tuchverse?
J'ai vu le premier, j'ai trouvé ça nul à yèche et j'ai jamais regardé les suivants.
Alors,
voilà.
Accroche-toi parce que le cinquième,
ouais.
Donc on en est au 5, God Save the Tuch est vraiment moins bien que le...
Ah bah putain.
Ah, il est...
Alors que tu vois, c'est pas du snobisme ou une haine des comédies populaires, la preuve, dans l'avion au retour, j'ai vu un petit truc en plus et j'ai vachement aimé aussi.
Un petit truc en plus, il y a vraiment des trucs bien. Hey, est-ce que t'as pas aimé dans un petit truc en plus le mec handicapé qui est fan de Sarkozy.
Qui est fan de Sarkozy, voilà, je savais que t'allais parler de lui.
Mais pour le mec...
Je l'ai adoré, il était génial.
Incroyable, tu sais quoi, franchement, il y a des blagues autour, machin, mais tout d'un coup, t'entends ce mec au loin qui te raconte la rencontre entre Sarkozy et Carla Bruni chez Seguela, et il te le fait en... On dirait qu'il te le narre, tu vois, vraiment en forme d'art. Il est extraordinaire.
Ah ouais, non, il est super. Et l'acteur, d'ailleurs, est dans un groupe de rock qui s'appelle Astéréotypie, qui est composé justement de personnes sur le spectre, et c'est vachement bien aussi. Donc oui, non, c'était mon perso préféré du film, voilà.
Mais évidemment, évidemment. Donc si vous nous situez sur l'échiquier de un petit truc en plus, oui, moi j'aime bien, moi.
Ah, c'était vraiment chouette.
Mais grâce à lui en particulier, quoi. Il y a un des handicapés qui essayait quand même les nazi jokes, et je me suis dit, waouh, c'est audacieux quand même par rapport à ce
ouais. Mais et puis voilà, j'aimais aussi beaucoup celui qui balançait les insultes. Bon, voilà, c'était drôle. J'ai rigolé.
Alors, comment veux-tu que je m'organise ? Est-ce que tu veux que je te parle d'abord, je vais parler des Tuches.
Tu veux nous faire parle des Tuches, puis peut-être tu nous fais des top flops du festival.
Parce que les Tuches, c'est le blockbuster, c'est le film d'ouverture, donc c'est le film qui est hors compétition.
Hors compétition, ouais.
Il sort très bientôt, il sort début février. Et là, pour la première fois, c'est Jean-Paul Rouve qui le réalise. Il y a un changement et à la réalisation, puisque j'imagine qu'il y a eu un divergent créatif entre...
Oui, parce que c'était Olivier Barou, les précédents.
Olivier Barou. Mais attention, Olivier Barou, un nom qu'on va rementionner encore dans ce stream, prépare-toi.
Olivier Barou, qui est le haut de KDO, faut le rappeler. Hein, c'est...
Oui, évidemment.
KDO Olivier, c'est lui.
Et donc là, c'est toute la même team, sauf que c'est Jean-Paul Rouve qui joue le Pertuche. Et donc, il réalise aussi. Et le concept de base de cet épisode, c'est qu'ils vont en Angleterre et c'est à peu près tout.
D'accord.
Ils vont à Londres parce que le petit-fils de Jeff, il est sélectionné pour être dans un stage de foot à Londres.
Ils n'ont pas genre déjà fait les tuches en Amérique déjà ?
Ils ont fait les tuches en Amérique. Et tu sais quoi ?
D'accord.
Moi, j'aime pas les comédies qui sont basées sur le fait qu'on parle mal une langue.
D'accord.
Et là, c'est un peu toujours comme ça, quoi. C'est toujours des. J'ai l'impression de voir Hollywood, tu vois. J'ai l'impression de voir Jamel Debbouze qui parle mal anglais avec Florence Foresti qui fait Do You Know Matmut. Tu vois, c'est pas ouf, quoi. C'est jamais très bien. Je trouve ça même un. Genre, tu sais, en 2025, je trouve ça un tantinet raciste avec les Anglais. Mmh. Et voilà. Et surtout, c'est très très mal écrit parce qu'aucun personnage n'a vraiment d'arc. Et il y a juste un truc, c'est que tu sais, le mec qui s'appelle Coin Coin, qui est joué par Théo Fernandez, qui est Donald Tuch, qui avant était le plus jeune de la bande. Maintenant, il a juste 35 ans et ça se voit, quoi. Tu vois, il a jamais envie d'être là, ça se voit aussi à sa manière d'être.
C'était lui, Gaston Lagaffe, non ?
Oui. Et ben, en gros, son personnage avant, c'est un super écologiste qui allait à ses rendez-vous à pied. Donc, il prenait genre 3 semaines et avec un gros sac à dos. Et tu vois, c'était ridicule. Enfin, il jouait le ultra écologiste. Et à la fin, il sort avec une fille. Et cette fille, genre, on lui fait « Ah, vous allez au ski ?» Il dit « Où ça ?» À Courchevel. Il fait « Non, à Dubaï. » Genre, il a abandonné tous ses principes. Voilà, c'est ça son arc. C'est qu'il devient un non-écologiste, quoi. Est-ce que j'ai aimé God Save the Tush ? Non, malgré la présence de Bernard Menez en roi d'Angleterre.
D'accord. Audacieux.
Bernard Menez qui est super, mais... Ouais, mais c'est dommage, c'est vraiment pas intéressant. Et Pierre Lottin, dont on sait qu'il est un bon acteur, parce qu'il a joué dans... Est-ce que t'as entendu parler de En Fanfare ou pas ?
J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu.
Grand succès de fin d'année du comédie française. Super comédie. Moi, je suis assez vendu aux comédies basées sur le fait que ces deux frères qui se connaissent pas. Et parfois, ça peut être pas mal, quoi. Parfois, ça peut être vraiment être pas mal. Et celle-là, elle est, bah, En Fanfare, vraiment, j'ai adoré En Fanfare et je la recommande. Mais Benji, parlons plutôt des films qu'on diffuse à l'Alpe d'Huez.
Oui, bah oui, parce que là, c'était hors compétition.
Oui, là, c'était hors compétition. Alors, est-ce que je te le fais du meilleur au pire ou est-ce que je te le fais comme à l'époque où je faisais mon article sur Slate, qui n'a pas eu lieu d'ailleurs cette année parce que je travaillais trop.
Pars du pire.
Je pars du pire ?
Ouais.
Alors, prépare-toi.
Ah, moi, tu veux le garder pour la fin. C'est toi qui vois, écoute.
Ah, ok, alors je prends le meilleur.
Ouais, pars du meilleur, voilà, pars du meilleur.
Alors, le meilleur, c'est celui d'ailleurs qui a gagné le Grand Prix. Il a gagné le prix des spectateurs et il a gagné. Je sais pas s'il a gagné le prix du. Je crois qu'il a gagné aussi le prix du public, mais on en a gagné 3. C'est Avignon de Johan Dionnet. Il l'avait fait en court-métrage avant. Et maintenant, il en fait un long-métrage. Et c'est une rom-com assez jubilatoire sur un mec qui est joué par Baptiste Le Caplan. Il se définit un peu comme un comédien un peu raté. Il galère un peu, mais il décide d'accompagner sa troupe au Festival d'Avignon pour y jouer une comédie de boulevard qui s'appelle « Ma sœur s'incruste ». Donc déjà, tu vois le titre,
d'accord.
Un peu boulevard. Et en fait, il croise Fanny, une très jolie comédienne qu'il avait croisée au cours d'un stage il y a des années. Elle se souvient de lui. Mmh. Et elle joue dans un Victor Hugo. Et il tient des prospectus dans la main, dont le Cid, et il fait « Ah, tu joues le Cid, tu joues qui ?» Et genre, et là, il est un peu perdu, mais du coup, il dit « Bah, je joue le rôle principal. » Tu vois, il savait même pas que Rodrigue est le rôle principal du Cid. Et en fait, du coup, elle tombe amoureuse de lui, mais aussi du personnage qu'il paraît être. Et pendant tout le festival, il fait genre, il est en train de jouer le Cid. Donc, c'est-à-dire qu'elle lui pose des questions sur comment ça se passe. Et il fait ouais, genre, il ment, en fait. C'est une comédie de mensonges. Et il s'enfonce dans son mensonge au fur et à mesure. Et c'est assez jubilatoire parce que c'est aussi une réflexion sur la comédie populaire par rapport à celle qui est plus intellectuelle ou surtout plus hermétique, tu vois, celle qui a différentes prétentions, une prétention culturelle. Et il y a d'ailleurs des comédiens vraiment vraiment jubilatoires qui jouent les deux, quoi. Il y en a qui jouent les acteurs snobs et il y a aussi la petite comédie de boulevard qui est incarnée notamment par Alison Wheeler.
Ouais.
Alison Wheeler qui est phénoménale et elle est vraiment très très drôle. J'attendais de voir un jour cette femme dans un rôle à sa mesure et là elle a vraiment joué le second rôle parfait de comédie sentimentale, c'est-à-dire celle celle dont tu t'intéresses au destin et en même temps, c'est pas le rôle principal, mais t'as, vraiment tu t'attaches à ces personnages. Et c'est ça qui se passe dans une bonne rom-com, c'est que au fur et à mesure, tu tombes amoureux un peu des protagonistes, quoi. C'est ça, t'as envie de les voir ensemble et,
bah oui, oui.
et tu t'identifies et c'est ça qui fonctionne. Et voilà, c'est une très 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 belle rom-com et ça me fait plaisir de voir une belle rom-com française parce que on a un peu perdu de vue ce genre qu'on a un peu délaissé. On les a un peu laissés sur Netflix, on les a un peu laissés aux plateformes. Et là, ça fait plaisir de voir un bon film comme ça au cinéma. Et ça fait vivre la ville de l'Avignon. Et ça, c'est génial parce que c'est une espèce de huis clos, mais dans la ville, ça fait. Tu vois un peu le monde du théâtre. Et moi, je suis pas un grand théâtreux. Et du coup, ça m'a donné vraiment envie de m'immerger, de moins d'un jour, de connaître ce petit frisson. Et ouais, voilà. Donc Avignon, c'est la vraie bonne surprise. Et c'est vraiment unanime. Hein. C'est-à-dire que genre, c'est tout le monde dit ça. C'est pas genre une personne qui dit « Ah non, Avignon, j'ai des réserves et tout ». Genre tout le monde était fan d'Avignon.
D'accord.
Et je te la recommande.
Très bien, très bien.
J'ai bien aimé Prosper, qui est une comédie rigolote avec Jean-Pascal Zadi.
Sur le roi du pain d'épices.
Pas loin. Prosper, donc il est joué par Jean-Pascal Zadi, est un...
Est-ce que cette référence va parler à nos auditeurs qui ont moins de 40 ans? Je me pose la question.
Non, je ne suis pas sûr.
Bon.
Et du coup, il est chauffeur Uber, il est un peu tout chum, il a une tignasse un peu machin, il a un jogging pourri, et un jour il accueille un mec mourant dans son taxi, dans son Uber, et il se débarrasse du cadavre, mais il lui chope sa paire de bottines en croco, et ce mec là en fait c'était un gangster mais roi de la sape. Alors, tu sais, la culture de la sape, tu sais, africaine, tu vois, zaïroise, congolaise, je sais pas si t'as déjà vu, mais c'est les mecs qui se sapent à mort pour aller en soirée et ultra sapé, quoi. Tu vois, genre, comme t'as jamais été sapé dans ta life.
Moi, le roi de la sape, c'était George Beatball, mais...
Et à chaque fois qu'il met ces pompes-là, en fait, c'est des pompes magiques, et il devient ce mec-là.
D'accord.
Et Jean-Pascal Zadi, il le joue super bien. Jean-Pascal Zadi, big up. Je l'ai croisé à la gare SNCF. On s'est tapé la discute. Il est vraiment adorable. Et c'est assez réjouissant et ça fait plaisir parce que ça montre une partie de culture parisienne que t'as pas forcément l'habitude, quoi. Mmh. Les battles de sap et tout. Il y a vraiment un truc de réjouissance. Il y a des scènes aussi, puisqu'il y a des morts. Hein, donc, du coup, il y a des scènes d'enterrement. Mais s'il y a un truc, une joie populaire vraiment là-dedans et de vraiment j'ai adoré ça.
D'accord.
J'ai adoré donc Prosper et Jean-Pascal Zadi et vraiment c'est un truc assez fort et je te le recommande. J'ai vu aussi dans ce que j'ai bien aimé, j'ai vu, alors ça c'est très surprenant, c'est une comédie qui s'appelle Le Répondeur, réalisé par Fabienne Godet. Alors ça c'est pas son premier film, il y a énormément de premiers films. C'est pas son premier film, mais c'est avec un comédien qui s'appelle Salif Cissé et qui, je pense, fait du stand-up, mais je suis pas sûr, je le connaissais pas avant. Et Denis Podalydès. Et en gros, Salif Cissé est un imitateur vraiment talentueux, mais bon, il perce pas. Et un jour, il est approché par Pierre Chezen, qui est en fait Denis Podalydès, et qui est un romancier célèbre, mais il en a ras le cul. Des coups de fil de sa famille et de tout le monde.
D'accord.
Il en a ras le cul.
Okay.
Son ex-femme, son éditeur, sa fille, il en a ras le cul. Et donc, il demande à ce mec de l'imiter. Et quand tu l'entends, c'est incroyable. T'as l'impression qu'il a été doublé par Podalydès, mais il les limite. Hein.
D'accord.
Et c'est incroyable. Et du coup, la comédie met du temps à se mettre en place. Je pense qu'il y a vraiment 40 minutes d'exposition, machin, c'est vraiment... Mais quand tu rentres dans le sujet, c'est-à-dire au moment où tout d'un coup, tu comprends que, en fait, il va prendre sa place et il va répondre à lui. Et au fur et à mesure, il va prendre ses aises dans le truc et il va s'enfoncer dans le mensonge, mais il va aussi résoudre des problèmes de Podalydès et tout ça. C'est vraiment... C'est très, très drôle. Et quand... Les mensonges se superposent sur les mensonges, ça donne vraiment des trucs vraiment très, très, très cocasses. Mmh. C'est vraiment très, très bien. Ça s'appelle Le Répondeur et je recommande très chaudement. J'en ai fait beaucoup, là, des biens. Et
tu m'as recommandé beaucoup de films, là, et c'est très bien, mais là, je remonte mon backlog de podcasts. Mmh. Et là, il y a deux jours, j'ai écouté l'épisode de Super Ciné Battle dans lequel vous avez classé Fiston.
Ah putain!
Est-ce que tu te rappelles Fiston que tu m'avais archi recommandé en me disant non, mais en fait, c'est bien, en fait, faut pas croire, Franck Dubosc, il est super
ouais,
dedans.
Ouais, non, ça, c'est mon regret, je pense, le personnel. C'est que je pense que si je revois Fiston aujourd'hui, je trouverais que c'est de la grosse merde.
Et dans Super Super Ciné Battle, t'as fait genre « Ah, j'ai bien eu Benji parce que je lui ai fait croire que c'était super. »
Non, hey, c'est vrai.
Escroc, tu pensais premier degré que c'était super quand tu me l'as recommandé.
Non, en fait, oui, c'est vrai que j'avais une espèce de petite tendresse pour ce film, mais il y a vraiment des scènes, et Stéphane dit « Il y a des problèmes dans le film. »
Ah non, mais il y a des problèmes énormes dans le film.
Et lui, il l'a vu avec un regard récent, et littéralement, il y a une scène où Kev Adams s'y rentre dans la chambre de la fille.
Mais oui, pendant qu'elle dort, il la regarde dormir.
Je crois qu'il lui fait un bisou même.
Non, mais à la fin du film, elle est dans la chambre de Kev Adams, elle se rend compte qu'en fait, il la stalk, qu'il la dessine depuis 20 ans.
Horrible histoire de stalker.
Et ça l'a fait craquer, quoi. C'est infâme.
Aucune chance de survie à un revoyeur, c'est certain.
Ah non, c'est... Oh là là, quel enfer. Donc j'espère que tes recommandations récentes ne sont d'un autre niveau.
Là, c'est très très validé pour l'instant. Et mais tu sais, en plus...
Bon, d'accord.
En plus, il y a un autre truc, c'est que quand ce film est sorti et que j'ai vu à sa sortie, il y a peut-être 10 ans, hein, ou peut-être 12, je sais pas, 15.
C'était un petit moment. Hein.
J'ai plus le même regard. On a fait quand même plus de 200 épisodes de Super Ciné Battle.
Ouais.
Si je revois le film, je pense que je le redétesterai à sa juste valeur.
C'est 2014, fiston, donc ouais, ça a plus de 10 ans.
C'est plus de 10 ans, ouais. Les règles de l'art, alors tous les gens qui sont sortis de la salle, ils ont dit « Ah, je comprends pas que c'est pas une comédie et tout ça.
Mmh. »
Et pourtant, il a eu le prix spécial du jury. Les règles de l'art, c'est avec Melville Poupeau et un rappeur qui s'appelle... Attends, c'est Sofiane Zermani, il s'appelle Fianso. Fianso, voilà.
Excuse-moi, Fianso, ouais, d'accord.
Tu connais Fianso?
De nom, je connais zéro.
Je connais zéro Fianso. Et en gros, c'est des mecs qui cambriolent le musée d'art moderne de Paris, tu vois. Genre, ils s'attaquent à un truc de fou, quoi.
Ouais.
Et c'est basé sur une histoire vraie. Et il n'y a pas vraiment de comique, il y a des séquences comiques et tout ça. Mais il y a une volonté de faire un film un peu à la Frère Cohen, quoi.
D'accord.
C'est super bien filmé. C'est, je pense, de tous ceux dont je te parle, genre plastiquement, qui est le plus intéressant. Là, pour l'instant, je t'ai dit les trucs cool. Après, je passe vraiment au truc avec les pitchs infâmes. Hein. Je te prépare.
Ouais.
Il y a On ira de Enya Barou. Est-ce que tu devineras de la fille de qui c'est?
Ok, j'ai une petite idée de qui c'est la fille, ouais.
Et elle s'attaque à un sujet un peu compliqué, puisque c'est une comédie basée... sur l'euthanasie.
Ouf.
Avec Hélène Vincent, donc, que tu connais bien, pour l'avoir vue dans Bernie, de l'avoir vue dans La vie à un fleuve tranquille. Et puis il y a Pierre Lottin. Et donc, en fait, Hélène Vincent veut faire une euthanasie. Sa famille n'en a même pas entendu parler. Et ils partent tous dans un camping-car jusqu'en Suisse, où elle a pris rendez-vous pour accomplir le geste. Mais du coup, ça devient une espèce de Little Miss Sunshine.
J'allais dire, c'est Little Miss Sunshine, mais avec l'euthanasie, en fait.
Ouais, d'accord. C'est exactement ça.
Donc, c'est un road movie.
Écoute, c'est pas mal.
D'accord.
C'est pas mal. C'est pas mal. C'est vraiment pas... C'est presque feel good, quoi. À part évidemment, il y a le thème de la mort et de la maladie qui revient au bout d'un moment parce que tu peux pas faire ça.
Ouais.
Et écoute, c'était très agréable. Et comme dirait mon ami Jérôme Lachasse avec qui j'étais, il me dit, tu sais, quand on voit certaines des comédies qu'on a vues, ça te fait réévaluer à la hausse, certaines.
Ouais.
Alors, il y a eu des trucs un peu popus, genre avec ou sans enfants. C'est les trucs classiques, genre, ils veulent se marier, ils demandent à leurs amis de pas faire venir leurs enfants, mais les enfants, ils les font venir en cachette. Bon. Et il y en a une qui était vraiment très 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 discutée, qui s'appelle L'amour c'est surcoté. Et alors elle a été très discutée parce que il y a plein de gens qui ont adoré.
D'accord.
Et moi je fais partie des gens qui n'ont pas aimé.
D'accord.
Pourquoi? Alors c'est l'histoire d'un mec qui est diagnostiqué, alors je te lis le pitch, diagnostiqué nul avec les meufs depuis son plus jeune âge, Anis mène une existence charnelle placée sous le signe du calme plat. 3 ans jour pour jour après la perte d'Isma, son meilleur ami et mentor, il prend son courage à deux mains et se décide enfin à sortir faire de nouvelles rencontres. Sauf qu'en abordant Madeleine, Alice ignore que débute une grande aventure. Un truc inattendu, un truc qui s'appelle l'amour. C'est une rom-com et tu sais que j'aime les rom-com.
Ouais.
J'ai juste un petit souci. C'est qu'il y a un personnage, un de ses copains, il est entouré par trois copains, trois copains, oui, parce qu'il y en a un qui est décédé. Et il est entouré par trois potes, et il y en a un qui est raciste. Et il fait des blagues antisémites tout le temps, et raciste, et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai un vrai problème avec ça.
Mmh.
Je crois que, et c'est bizarre, hein, parce que tu sais que Borat, c'est un film que j'affectionne, mais Borat est un film qui est basé précisément là-dessus.
Yeah.
Tu vois ce que je veux dire? Tu revois Borat, tu sais ce que tu vas avoir, et tu sais que c'est l'angle du film, quoi.
Ouais.
Et j'adore Borat, mais je crois que j'ai passé un certain cap. où je peux plus entendre quand c'est fait gratuitement, parce que le personnage raciste, il me fait penser à celui qui était le personnage antisémite dans Gangsterdam.
Alors, je n'ai pas vu Gangsterdam, donc...
Mais t'en as entendu parler. Et donc, du coup, le personnage est super raciste, et il est un peu dédouané au détour d'une phrase. Le mec, il dit, en fait, je suis pas sûr qu'il le soit, quoi. Mais c'est quand même tout le temps, et j'ai du mal à entendre une salle qui rigole avec des blagues antisémites, en fait, et des blagues racistes. Et alors, quand viennent les blagues transphobes, tu m'as perdu, quoi. J'ai vraiment du mal, et je peux plus, en fait. Et en fait, vu que c'est le portrait de Cum, tu dis au bout d'un moment, ah, c'est une rom-com écrite par un Cum. Et c'est pour ça que, malgré le fait que j'adore Laura Felpin, qui est le personnage principal féminin, en fait, c'est une manic pixie dream girl de plus, quoi.
Ouais.
Elle est là pour mettre en exergue le fait que le héros soit formidable. Et alors, y a un truc mais absurde de fin, c'est-à-dire qu'elle lui fait un piège. Elle piège le mec pour qu'il aille voir une psy. Et c'est le miracle de la psy. En une séance, il est guéri. Et quelle psy accepterait de faire un piège? Tu vois, ça n'a aucun sens. Ça n'existe pas. C'est une méconnaissance de comment fonctionne la psy, enfin, et de ce que ça peut t'apporter, de ce que tu peux y laisser comme plume aussi. Genre, c'est vraiment une méconnaissance absolue de ce que c'est. Et donc, du coup, à la fois par le racisme et à la fois par le fait que, cette espèce de deus ex machina de psychanalyse, me fait complètement sortir du film. Et genre, je faisais partie de ceux qui n'aimaient pas le film, quoi. Vraiment. Et pourtant, il a eu un prix spécial qui a été fait. Normalement, il y a un grand prix, un prix spécial. Et là, ils ont fait un prix spécial, parce qu'ils voulaient vraiment lui donner quelque chose, quoi.
D'accord. Bon.
Et moi, j'ai pas du tout aimé. Voilà. Je suis resté. Et pourtant, les deux persos sont vraiment, il y a une vraie osmose entre deux et tout.
Tu dis qu'il y a des blagues racistes, des blagues antisémites, des blagues transphobes, mais est-ce que c'est pour se moquer de ces propos-là, ou est-ce que c'est pas assez bien écrit pour qu'on comprenne que ça se moque des racistes et des transphobes,
Je pense que si t'enlevais le personnage comme ça et que tu faisais un autre personnage mais drôle, ça marchait mieux.
D'accord.
Je pense que si t'enlevais ce mec, ça marchait mieux. Et quand vient ensuite les blagues transphobes qui sont faites par d'autres personnages,
ouais.
Parce que c'est pas lui qui fait les blagues transphobes, mais c'est d'autres persos qui... Et bah là, c'est genre, tu m'as perdu. Tu m'as perdu. Et vraiment, j'en pouvais plus, quoi.
Ok.
Mais c'est pas le pire.
Ah.
C'est pas le pire. Il y en a un qui était vraiment polémique. Et je vais te lire le pitch en entier.
Je t'écoute.
Est-ce que tu connais Michel Leclerc?
Non.
Il a réalisé le nom des gens. Il fait souvent des trucs politiques.
Ah.
Le nom des gens, c'est son plus grand succès.
Le nom des gens, je connais deux noms, mais j'ai pas vu.
C'est l'histoire d'une fille qui couche avec des gens de droite pour les rendre de gauche.
D'accord.
C'est plutôt drôle, c'est vraiment drôle. Et à la fin, il y a un caméo de Jospin. C'est vraiment le film du siècle.
D'accord.
Et il est habitué aux films un peu polémiques et surtout politiques, qu'il écrit avec sa compagne. Et celui-là, je sais pas à quel point elle était investie dedans, mais en tout cas, elle l'a coécrit. Enfin, c'est marqué dessus. Et attention, prépare-toi, et tu te dis à quel moment ça peut tourner mal. Simone, une flic aux idées conservatrices, est infiltrée dans un collectif féministe, les Hardies. Elle enquête sur les militantes qu'elle soupçonne de complicité dans le meurtre d'un mari violent.
Ouais.
À leur contact, là tu fais.
Ça commence déjà à être un peu, vas-y, continue.
Ouais, bah ouais, les paroles des femmes, tu sais, douter, ouais, machin, ouais. On va là-dessus. À leur contact, Simone s'ouvre progressivement aux idées féministes. Seulement voilà, sa couverture est mince, et les Hardies, devinant qu'il y a une taupe parmi elles, se mettent à la soupçonner. Là tu retiens ton souffle, prépare-toi.
Vas-y.
Pour détourner l'attention et se sortir de ce mauvais pas, Simone ne trouve rien de mieux que d'accuser au hasard un homme de l'avoir violé.
Oh là, ok. Alors.
Attends, c'est pas fini.
Ok.
Or, Paul, cet homme qu'elle accuse, un comédien raté qui vit dans l'ombre de sa femme, est le plus doux et le plus inoffensif des hommes. Simone, catastrophée par ce qu'elle a fait, tente de réparer sa faute, mais c'est trop tard, l'accusation devient publique et Paul une cible du collectif. C'est bon ?
Ouais.
Alors, Paul est joué par Benjamin Laverne et je peux te dire qu'il tient le film à lui tout seul. Non, les autres acteurs sont plutôt bien. Il y a Léa Drucker, il y a Vincent Elbaz qui joue un flic connard et il maîtrise les flics connards en fait. Ce mec-là, il est vraiment très très bon. Il a un truc très naturel à jouer les flics connards.
Bon, donc en gros, l'intrigue tourne sur une fausse accusation de viol.
Ouais.
Ouais.
Au bout d'un moment, c'est la deuxième partie du film, elle tourne autour de ça. Il y a un truc, c'est que c'est un film qui va plaire à peu de personnes parce que et les féministes qui sont concernées. Et les fachos, ils vont trouver que c'est un film wokiste. Mmh. Et personne ne va s'entendre là-dessus. Il y a un truc, c'est que les féministes sont montrées vraiment comme des deux-beurrées. Genre, elles sont pas montrées sous un jour très favorable, on va dire.
Ouais.
Ça, c'est pas ouf. Et la flic qui commence à avoir des idées modérées au fur et à mesure qu'elle les côtoie. Bon, heureusement, elle est un peu l'encre morale de ce truc, quand même.
Ouais.
Mais elle va accuser quand même un mec à tort de viol.
Ouais.
Et le mec qui est joué par Benjamin Laverne, et je te le répète, il est vraiment super. Benjamin Laverne, par contre, lui, c'est le mec déconstruit. D'ailleurs, il dit à un moment, je suis déconstruit, il dit, ah, je suis démoli, tu sais, il se gourre. Il dit, ah non, je suis déconstruit. Ou il dit, ah non, je suis défoncé, ah non, je suis déconstruit. Genre, il blague là-dessus.
Super van.
Mais... Ouais, mais en fait, il les tournait vraiment en ridicule, quoi. Mmh. Et ce qui est un peu naze, que le POV qui soit vraiment intéressant, enfin, qui nous intéresse, il soit aussi tourné en ridicule. Et il y a les fachos qui sont pas... Parce qu'il y a un moment, des fachos qui entrent en jeu, et bon, on les voit presque pas, en fait. Et il y a parfois des phrases vraiment qui vont faire hurler les gens, quoi. Mmh. Parce que du coup, il se fait accuser de viol, mais du coup, ils se disent peut-être qui... Il sait pas qui a porté plainte, et du coup, il fait la liste de toutes ses ex, et il se dit avec qui j'ai peut-être pu... Et donc, il se met à les appeler l'une après l'autre pour leur dire... Et à un moment, il se met à embrasser de force une femme dans la rue, en se disant... La fameuse flic, il l'embrasse de force en se disant peut-être que j'ai ça en moi, et il dit des phrases du genre pourquoi je serais pas un violeur, tu vois, genre pourquoi on m'innocenterait, tu vois, parce que je suis sympa. Et c'est très très, c'est ça marche sur des œufs tout le temps et ça casse beaucoup, quoi.
Ouais.
Moi j'ai passé un moment très et il y a Judith Chemla qui joue dedans et tu peux pas l'accuser de prendre à la légère ce genre de choses vu son historique et tout ça. Mmh. Et tu sens qu'elle a vraiment eu de l'impact parce que les dialogues ont été un peu ripollinés pour leur donner un peu une profondeur et surtout un truc peut-être de deuxième degré de lecture ou plutôt une profondeur de lecture ou d'exactitude, quoi. Mais malgré ça, oh là là, c'est très très compliqué. Est-ce que tu crois que c'est un film que je recommanderais à ma compagne? Non.
Non, je pense pas, non.
Non, 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 ça va la mettre en rogne. Elle va se dire pourquoi on fait des trucs comme ça. Et c'est souvent la réaction qu'ont eu les gens, c'est genre comment c'est possible de faire un truc comme ça, quoi. Donc, et c'est pas le pire.
D'accord, ouais. Et c'est pas le pire. Ok, ok.
C'est pas le pire. J'ai oublié de dire, il y avait À Bicyclette, qui est un chouette film de Mathias Mikus. Et ça, c'est pas une. C'est presque un documentaire. Mmh. C'est un documentaire sur. Alors attention, accroche-toi, le sujet est dur. Sur un réalisateur qui embarque son meilleur ami Philippe Rebaud. Philippe Rebaud, que tu as peut-être vu dans des comédies. Il a une tête de vieux. Il sent la clope et la bière. Vraiment, ça se voit à sa gueule. Et il embarque son pote dans un road trip à bicyclette. Et ils refont le voyage en partant de chez eux à Istanbul, mmh, en vélo. Et c'est le parcours qu'a fait son fils. 3 ans plus tôt ou 4 ans plus tôt, et son fils qui s'est donné la mort et il ne sait pas pourquoi.
D'accord.
Et c'est un documentaire, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment...
C'est un docu, mais alors qu'est-ce que ça fout dans un festival de comédie?
Parce que c'est plutôt drôle, parce que c'est Philippe Rebaud, il a l'air à la fois con comme un balai et rigolo, tu vois, il est humain, tu vois, et lui, ils sont très humains tous les deux, tu vois. Et il y a vraiment des moments où tu rigoles, quoi, parce qu'il y a des moments où ils en auront le cul, des moments où ils traversent des bleds insoupçonnés et tout ça, et c'est assez rigolo. Et donc, c'est une comédie humaine, comme ils disent. Ils traversent avec tendresse, humour, et évidemment, il y a des moments où c'est très, très émouvant, parce qu'en plus, ils sont rejoints à la fin par le frère du garçon.
D'accord.
Le frère du garçon qui s'est donné la mort. Et il y a un truc très cathartique pour lui de faire ce documentaire qu'il a déjà montré à Angoulême. Il a déjà gagné plein de titres, plein de trucs à Angoulême. Là, il est montré en séance spéciale.
D'accord.
Et il assiste à toutes les séances et il en parle aux gens et tout. Et il y a un truc très, très fort aussi de l'ordre du... Pas de la prévention, mais du message. C'est-à-dire que d'expliquer que ça n'a pas aucun sens de se donner la mort et que il comprend pas ce qui s'est passé et que de communiquer là-dessus aussi, de parler, de faire parler aussi les gens sur ce sujet. Mmh. Et je trouve ça méga louable, hein. C'est vraiment super. Ça, c'était vraiment... J'ai passé un bon moment, mais évidemment, c'était compliqué. Tu t'imagines, moi, je suis père et tout.
Bah ouais, ouais.
C'est des choses qui font ressortir des trucs très, très violents. Surtout si vous avez déjà connu des gens qui se sont donné la mort. Enfin, vraiment, c'était une séance très compliquée. Hein. Je m'attendais pas à voir ça.
Donc, gros trigger warning, quand même.
Gros trigger warning. Ouais. On a un peu tous les mots qu'il fallait pas. Mais déjà, avec le précédent, hein, le mélange des genres. Et celui-là, il sort en mars, et je suis à peu près sûr qu'il aura un très très bon bouche à oreille, parce que c'est pas mal. Mais je t'ai gardé le meilleur pour la fin, comme d'habitude, Benji.
Ok, allez, vas-y.
T'es prêt ?
Écoute, j'étais prêt dans le ventre de ma mère, comme dirait l'autre.
Benji, je t'ai gardé le meilleur pour la fin.
Je t'écoute, vas-y, fais-moi mal.
Je sais que vous avez beaucoup ça aux États-Unis.
Voilà.
J'en ai vu aux États-Unis.
Des comédies avec Adam Sandler ?
Non, c'est pire.
Ah, des comédies avec Kevin James ?
Non, c'est pire, c'est les films.
Des comédies avec Rob Schneider ?
Non, prépare-toi.
Bon, je suis à court là, vas-y.
C'est les comédies chrétiennes.
Oh putain ! Ah oui, alors ça oui.
Alors, tu n'as jamais entendu parler de Sage Pro Distribution ?
Mais tu sais que au final, des films chrétiens, j'en ai vu. Mais des comédies chrétiennes, je suis pas sûr, en fait.
Est-ce que tu as déjà entendu... Non, tu n'as pas entendu parler de Sage Production. C'est ceux qui ont distribué Vaincre ou Mourir l'année dernière, il y a 2 ans.
Oh là 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 là, oui, d'accord. Oui, donc des amoureux de l'art, quoi.
Ouais, c'est des amoureux de l'art, et c'est que des films de propagande chrétienne. Et la propagande, parce que c'est toujours... Il y a des twists sur l'histoire, il y a des twists sur les légendes, sur les mythologies, genre, c'est... C'est Nawak. Et là, c'est leur première comédie. Et c'est une comédie qui est à la fois coécrite par le réalisateur et le patron de la boîte, quoi. Mmh. Parce que t'as vu, il s'est impliqué. Et alors, prépare-toi. C'est une comédie qui s'appelle De mauvaise foi.
D'accord.
Attends, je me prépare. J'essaie de bien lire à la Pascal, tu vois.
Vas-y, vas-y.
Un notaire vieille France doit impérativement sauver son château délabré et empêcher le mariage de sa fille avec un golden boy prétentieux. La fortune promise par une comtesse mourante à un jeune artiste bohème pourrait régler tous les problèmes, à condition que le futur héritier devienne un bon catholique et tombe amoureuse de la jolie fiancée.
Écoute, je...
la condition finale est ouf. Et tu sais quoi ? Évidemment, c'était nul.
Ouais.
Évidemment, c'était à chier. Mmh. Enfin, tu pouvais le deviner. Alors, ce qui est fou, c'est qu'ils avaient quand même... ils ont quand même un acteur qui le... assez connu. Ils ont 2 acteurs assez connus. Ils ont Pascal Demolon et Philippe Duquesne qui ont accepté. Alors, c'était assez rigolo parce qu'ils présentaient le film en disant « Ouais, on rigole avec la foi, machin, truc. » Et plus leur présentation avançait, et plus ils disaient non, c'est catholique, on est là pour catholique. Genre, tu sentais que c'était un truc, ils rigolaient pas avec la foi, ouais, en fait, ouais. Ils étaient là pour faire passer un message, quoi. Alors, évidemment, le golden boy prétentieux, en fait, il veut que coucher, hein. C'est parce que c'est mal. Il veut coucher. Et le jeune bohème, lui, c'est un mec un peu pur, tu vois. C'est pas le genre un mec à dire que non, je suis un bon catholique juste pour avoir un riche héritage. Et il y a des scènes très 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 gênantes où ils s'engueulent à table parce qu'il y a des mecs qui sont véganes à table. Ils sont à ce niveau-là, quoi. C'est genre, t'as les mecs qui, à la table qui disent « Ah, nous, on mange bio !» Tu vois, genre, c'est une source d'engueulade, quoi.
Mais comme dans 100% bio. Pareil.
Non, mais dans 100% bio, ça passe très très vite, ce genre de truc. Là, c'est genre, c'est vraiment...
Dans 100% bio, c'est quasiment tout le principe du film.
Non, mais là, c'est l'apex de l'engueulade.
D'accord.
Et à la fin... Ils s'embrassent et c'est une scène, je vais me l'enregistrer en gif quand ça sortira, c'est pas possible, où à un moment il lui touche un bout de la fesse, mais tu vois, genre pendant qu'il s'embrasse, mais du genre un tout petit peu, mmh. Et là elle prend sa main et elle remonte sa main, genre vers le
bas du dos.
Non, vers le haut, genre vers les hanches, quoi. Ouais. Tu vois, genre pour non, tu toucheras pas les fesses, quoi. Mmh. C'est le truc le plus chasteau débile. C'est nul, hein. C'est vraiment nul. C'est il y a pas d'enjeu. Et puis ensuite, je sais pas à quel point c'est légal qu'un mec, un évêque rentre dans une chez le notaire pour dire ah c'est lui, c'est un bon catholique. Je certifie conforme qu'il c'est un bon catholique. Et je peux pas à quel Je voudrais bien un notaire qui me qui me certifie que c'est pas possible. C'est pas que je sois pointilleux sur les détails. Hein. On a vu tout à l'heure, il y a une comédie où c'est un psy miracle qui vient sauver tout le monde. Là, je suis pas sûr que l'évêque vienne, qui donne un satisfecit de chrétienté. Bah, je crois pas que ça déclenche un héritage, quoi. Tu vois, je suis pas sûr que cette condition marche. Mais bref, ça c'est vraiment nul. Je sais pas quand ça sortira. Je crois que c'est vers mai.
Et ça s'appelle ? Rappelle-moi comment ça s'appelle ?
De mauvaise foi.
De mauvaise foi. D'accord.
Et ça, faudra vous accrocher. Je pense que pour la voir, ça va être. Il faut y aller. Faut y aller le jour de sortie, quoi.
Bah j'irai pas. Écoute, je pense que de toute façon. Hein,
Je pense que j'ai donné des idées aux gens dans quelques milliers de dans un millier de jours, 1500 jours, 1600 jours.
Oui, pour des listes pour Stéphane Boulet.
Pour des listes pour Super Ciné Battle, ouais. Je pense que j'ai envie que Stéphane voit ça.
Ouais.
Oui, je sais, c'est dégueulasse, mais bon, je t'ai fait mater Fiston.
C'est vrai, c'est vrai. Tu lui as fait mater à lui aussi, au final.
C'est vrai, mais il était vraiment curieux. Il était vraiment curieux.
Ton pouvoir de nuisance, Daniel.
Le dark du bosque, ça l'a. Il était.
Le dark du bosque.
Mais ouais, non, mais je te rappelle que par contre, je t'ai recommandé Boulet Bill 2. Hein.
Oui, que bah, j'ai toujours pas regardé. Et je t'ai dit,
c'est le Dark Knight de
ouais,
Franck
Dubosc.
Ah, mais tu sais que. T'étais peut-être pas au courant, mais le film de Franck Dubosc en ce moment cartonne au cinéma.
C'est quoi ?
C'était un film à la Frère Cohen, en fait.
Mmh.
T'en as pas entendu parler ?
Non, du tout.
C'est un film qui s'appelle Un ours dans le Jura.
Non, ça me dit rien, non.
Et c'est une histoire rocambolesque de mort dans le Jura, voilà, avec des dealers et des mafieux dans le Jura.
Mais genre, c'est une comédie ou c'est son tchao pantin ?
Ah non, c'est une comédie, c'est vraiment
D'accord.
une comédie, mais c'est une comédie un petit peu noire parce que ça implique de la mort des gens. Il y a Laure Calamy et Benoît Poulvord en flic, et c'est vraiment très très bien. C'est enfin je survends peut-être
je te vois venir, tu essayes de m'appâter en me disant qu'il y a Laure Calamy et Benoît Poulvord qui sont deux acteurs que j'apprécie énormément, donc et tu vas essayer de me faire regarder ce truc là. Tu m'as déjà eu une fois, Daniel, ça ne marchera pas.
Non mais c'est vraiment pas mal, c'est un vrai tentative de Frère Cohen à la française, et il dépasse le million d'entrées, je crois, à l'heure actuelle.
Bon bah écoute,
donc c'est vraiment déjà un succès, quoi. Benji, je pense qu'on a fait le tour de la PDS, donc il y avait du bon et du moins bon.
Oui, j'ai l'impression, effectivement.
Mais le bon était pas mal, donc ça va, je suis relativement content.
Bon, t'es content de ton festival, du coup ?
Bah, j'ai passé un bon moment, j'ai rencontré des gens. Je tiens à faire une bise à l'équipe de Dérapage, qui est un court-métrage. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont fait des court-métrages. Je suis content parce qu'en général, les gens qui présentent des court-métrages à la PDUES, en général, ils reviennent 4-5 ans plus tard avec un film. Et du coup, moi, je place mes billes, là. Du coup, je deviens pote avec eux. Et plus tard, ça va être des big-up, des grands...
Rusé.
Non, mais blague à part, je tiens à passer un énorme big-up à l'équipe d'un court-métrage qui s'appelle « Dérapage ». Et pourquoi celui-là en particulier ? Parce que le directeur photo de Dérapage est un auditeur de Super Ciné Battle, et il nous avait envoyé des listes assez rigolotes que je m'étais annoté et je les ai pas encore passées. Et maintenant, je crois que le fait que je l'ai rencontré, peut-être que ça va déclencher le palier. Je passe tes listes.
Oui, t'es un peu obligé. Maintenant.
Je suis un peu obligé, mais en tout cas, c'était adorable. C'était vraiment une super rencontre, et en plus, c'était un super court-métrage. C'était une parodie à la fois de politique et de news et de BFM et de CNews, et je leur avais dit vous savez quoi, je sais pas si la politique ça passe à des trucs politiques passent à la politique, parfois ça passe, parfois ça passe pas, mais du coup ils ont pas gagné, mais c'était mon court métrage préféré qui s'appelait Dérapage, et donc j'embrasse Aurélien qui est le directeur photo de ce court métrage. Et je crois que Benji, maintenant on peut passer à nos recos, peut-être ?
Ben, allons-y, oui.
Allons, fais pas cette gueule. Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec.
Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre ? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle. On peut laisser la pluie et le vent la balayer. Ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on chira.
After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Et d'ailleurs, on n'a pas fait notre best-of de l'année, Benji.
On n'a pas fait les top flops, non, parce que c'est l'épisode qu'on devait faire, mais les incendies en ont décidé autrement.
Tu sais quoi ? Je pense qu'on va laisser passer un peu de temps Et on va faire un épisode, tu sais, comme on avait fait des awards, mais des awards un peu farfelus, et on va le faire à milieu de l'année, comme ça.
Oui, ben on peut faire. Oui, alors c'est un peu bizarre au milieu de l'année, mais pourquoi pas, oui, si tu veux.
Non, mais on va le faire tôt ou tard, mais on va le faire peut-être.
Oui.
Pas au milieu de l'année, mais peut-être dans un mois, peut-être. On verra quand on le fait, mais on va faire un épisode d'awards un peu à notre sauce. Benji, à toi de jouer.
Alors, j'ai une recommandation jeu vidéo. C'est un jeu qui ne date absolument pas de 2024, donc il ne sera pas dans mes top flops 2024. Mais c'est un jeu qui a l'avantage... Alors, avantage entre gros guillemets, parce que c'est quand même super malheureux pour les développeurs. C'est un jeu qui a bidé et donc qui est régulièrement en solde, en fait. Il est quasiment... Ça devient presque plus dur de l'acheter à plein tarif que de l'acheter en solde. Et je parle de Marvel's Midnight Suns, qui est donc un jeu développé par Firaxis. Et Firaxis, c'est les gens qui sont notamment derrière Civilization, mais surtout les dernières versions de XCOM. Et qu'est-ce que c'est Marvel Midnight Suns ? Eh ben, c'est un mélange justement entre XCOM, que je viens de nommer, et un jeu de deck building. Et alors, sur le papier, ben, y avait pas grand-chose pour que ça me plaise, parce que je suis pas forcément un fan de tactical. Et je parle de tactical à la sauce XCOM, hein, pas les TRPG comme Langrisseur ou comme Final Fantasy Tactics. Et je suis pas forcément non plus méga client des jeux de deck building. Mais Marvel Midnight Suns, en fait, il m'a happé, il m'a pris par surprise, il m'a mis un petit coup derrière la nuque, là, et bim, j'étais sous son contrôle. Ça fonctionne vachement bien, le système est vraiment intelligent. Donc, il y a du deck building, c'est-à-dire que chacun des personnages que tu peux contrôler, parce que oui, tu vas pouvoir contrôler plusieurs personnages de l'univers Marvel, a son petit deck de cartes qui va donc représenter la plupart du temps, c'est des attaques, mais il va y avoir aussi des buffs qui vont te permettre d'améliorer tes caractéristiques. Et puis, pas tellement de mouvements défensifs. Pour chacun de tes personnages, donc tu vas faire ton petit deck avec tes petites attaques, avec tes petits pouvoirs spéciaux, et ensuite ça va être du tour par tour, à savoir que t'as ton tour à toi où tous tes personnages vont agir, avec notamment des interactions qui rappellent un peu Mario et les lapins crétins. En fonction de ton positionnement sur la map, tu vas pouvoir te rapprocher d'un adversaire, tu vas pouvoir essayer de le pousser dans le vide, tu vas pouvoir essayer de le pousser sur un truc qui explose, tu vas pouvoir utiliser des éléments du décor contre tes adversaires. Et une fois que tu as fini ton tour, ben c'est au tour de l'adversaire de faire se déplacer et interagir tous ces monstres. Et ouais, pourquoi ça fonctionne ? Bah ça fonctionne parce que le système de jeu est vraiment malin et très facile à prendre en main. Et alors, je sais que c'est un peu une caricature de dire facile à prendre en main, difficile à maîtriser, mais globalement c'est ça en fait. Il y a énormément de subtilités qui font que tu peux, avec un peu de ruse et pour peu que tu aies eu le bon tirage, eh ben, déglinguer l'adversaire en un voire deux tours, ou alors parfois tu peux un peu galérer et devoir un peu lutter sur plusieurs tours d'affilée, à devoir faire ressusciter tes personnages. Donc, qu'est-ce que ça raconte Marvel Midnight Sun ? Ça raconte la résurrection de ton héros, qui est donc le Hunter, qui est la fille de Lilith. Alors Lilith, c'est un personnage de l'univers Marvel. Dans le jeu, c'est la sœur d'un personnage qui s'appelle Caretaker. Caretaker, on comprend très vite que c'était l'amante de Agatha Harkness. Alors, c'est pas la même Agatha Harkness que dans le MCU, mais ça reste Agatha Harkness. Et Lilith, globalement, elle est là en tant qu'émissaire de Cuthon, ou alors je ne sais pas comment on le prononce en français, Céton, je ne saurais pas comment le prononcer, mais Cuthon en anglais.
Cuthon, ça s'écrit C-H-T-H-O-N.
Ouais, qui est donc un des dieux primordiaux, et globalement, Lilith serait plus ou moins l'émissaire de Cuthon, qui viendrait pour, bah, globalement, dominer la Terre, rien que ça. Et pour l'arrêter, on a une équipe je vais pas dire de bras cassés parce qu'ils sont quand même assez compétents, mais on a une équipe un peu de briquet de broc qui s'appelle les Midnight Suns, composée de Ilyana Rasputin, de Blade, de Ghost Rider, mais pas le Johnny Blaze, le Robbie Reyes, et de Nico Minoru, des Runaways, équipe à laquelle on ajoute donc le Hunter. Mais au fil du jeu, on va rencontrer de plus en plus d'autres personnages, et notamment des personnages un peu plus connus, un peu plus populaires. Alors, je pense à Captain Marvel, je pense à Captain America, je pense à Spider-Man. Et il y a aussi des DLC. Faut savoir que la version que j'ai chopée, et je l'ai chopée à genre 10 balles, c'était la version Game of the Year qui inclut les DLC. Dans les DLC, il y a Deadpool, il y a Storm, il y a Venom, mais surtout, il y a Morbius. Et alors ça, c'est quand même formidable de pouvoir jouer avec Morbius, savoir qu'il y a une vanne dans l'écriture sur le film Morbius. Globalement, l'écriture fait tout le sel du truc. Les interactions entre les personnages sont vraiment chouettes. Alors, il y a un côté un petit peu paradoxal qui est que t'as une espèce de menace cosmique sur le monde entier, mais tes personnages, ils partent à la pêche, ils font des petites balades entre eux, ils deviennent potes.
Ils ont une base où ils passent leur temps.
Voilà, ils ont une base où ils passent leur temps et ils ont des interactions. Alors j'ai regretté un peu que les interactions puissent pas être poussées un peu plus parce que j'avais très très envie de pécho Captain America et j'avais aussi très très envie de pécho Captain Marvel, mais malheureusement ça ne s'est pas fait. Mais justement, il y a un moment où il y a des interactions rigolotes avec notamment deux personnages, il y en a un qui essaye d'en pécho un autre et c'est très drôle en fait. Donc voilà, c'est ça qui fait un peu le sel du truc. Moi globalement j'ai vraiment passé un bon moment. Il y a un aspect exploration aussi parce que tu explores la base aussi, Daniel. Ouais,
j'ai jamais été au bout du jeu parce que j'ai jamais eu le temps, mais c'est vraiment, il est dans ma to-do list absolument parce que énorme buzz positif.
Ouais.
C'est un jeu qui a été un flop à sa sortie, mais dont tout le monde a dit « Ah là là, c'est vraiment super bien », donc il a manqué son public.
Et c'est incroyable, hein. il a complètement raté son public parce qu'il a eu une très bonne presse, que tous les gens que je connais qui y ont joué ont dit « C'est super », mais que globalement, il s'est pas vendu, quoi.
Mais Stéphane a fait sa reco il y a un an dessus, parce qu'il y a joué en retard. Comme toi, il a dû avoir une version pas chère.
Ouais.
Et tout le monde se fait happer à la fois par la mécanique et aussi par le casting rigolo, parce que c'est rigolo de voir Blade et Doctor Strange...
Et Iron Man et...
Et Nico Minoru et Scarlet Witch ensemble, parce que c'est ça qui est assez rigolo, c'est que le casting est un peu... C'est pas les évidences, quoi.
C'est hétéroclite, ouais.
Certes, il y a Spider-Man et Wolverine, voilà, et tout ça, mais...
Il y a certaines évidences, mais il n'y a pas toutes les évidences.
Ouais, ils ont essayé quand même qu'il y ait Ghost Rider, le Robbie Reyes, comme tu as dit, et voilà. Et surtout, Ilyana, qui je pense est un peu le nerf de la guerre, parce que c'est quand même les personnages magiques du monde Marvel.
Personnage super intéressant, Ilyana, alors que tu vois, dans les comics, c'est pas forcément un personnage qui m'intéresse beaucoup. Et là, dans le jeu, elle m'a séduit, elle est vraiment super. Et puis toutes les interactions que tu peux avoir avec elle, où tu comprends en fait pourquoi elle agit comme elle l'est, pourquoi elle a ce caractère. Non, c'est vraiment super chouette. On sent que ça a été écrit par des gens qui aiment les comics. Ça m'étonnerait pas que ce soit des auteurs de comics qui aient bossé un peu dessus aussi.
En général, c'est ça.
Et alors, j'ai pas regardé le casting vocal, mais j'ai l'impression que Nico Minoru, c'est celle qui jouait Nico Minoru dans la série Runaways. Série que j'ai détestée au passage, mais l'actrice qui jouait Nico Minoru, elle était plutôt bien, et je pense que c'est elle qui la joue là dans le jeu vidéo.
Lyrica Okano, je viens de dire.
Alors, c'est pas elle. Du coup, tant pis.
Okay. Écoute, ça veut dire qu'elle joue très bien comme la série. Moi, c'est un truc que je jouerais avec volontiers quand j'aurai le temps. Et je pense qu'en plus, il faut mieux le faire sur Switch ou sur mobile parce que c'est un Tactics quand même. Et un Tactics, c'est bien d'y pouvoir y jouer partout.
Et c'est vraiment un jeu qu'on trouve vraiment, mais vraiment à pas cher. Hein. Donc, je ne peux que le recommander. Attends, Lyrica Okano, c'est. C'est bon, c'est Lyrica Okano. J'avais bien reconnu sa voix.
Et pour ma part, je vais recommander un jeu évident pour moi et on va en parler très longuement dans Sumimasen Turbo qui devrait arriver peut-être une semaine après que vous écoutez ce podcast, si tout se déroule parfaitement.
Ouais.
Dynasty Warriors Origin, donc le dernier Shin Sengoku Musso Origins. Dynasty Warriors, on vous le répète, c'est un jeu de baston où on affronte une armée entière et où idéalement les soldats ennemis se massent par paquet de 12 devant sa gueule et on les envoie valdaguer par cinquantaine. C'est très drôle, c'est toujours très très défoulant, mais il y a pas mal de twists dans cette version, puisque c'est une version Origins, et c'est une version où ils ont vraiment repensé et raffiné la recette. Par exemple, il y a des choses auxquelles logiques où d'abord tu joues un personnage, un vrai personnage, tu joues pas un des généraux, tu joues un personnage donné, tu participes au combat avec les généraux et tout ça, mais tu es un personnage, donc tu as une histoire qui va se greffer à l'histoire de des trois royaumes. Donc le classique de la littérature, tu es un personnage amnésique et tu vas essayer de découvrir un peu la vérité sur toi-même. Et au même temps, t'as l'histoire des Trois Royaumes qui se déroule. C'est un jeu très long, il y a beaucoup beaucoup de missions, il y a vraiment genre une cinquantaine ou 70 missions pour le finir, c'est vraiment très très long. Et parmi les nouveautés, par exemple, il y a le fait que si tu changes d'une arme, si tu changes d'arme, bah, tu peux passer des skills. Et si tu passes les skills, tu augmentes ton niveau global, en fait. Ce jeu t'invite régulièrement à changer d'arme. Et ça, c'est très, très malin. Donc, du coup, t'as pas exactement le même style de jeu. T'as des shields pour des personnages. Alors ça, il l'avait fait à la fois dans le Zelda et dans le Fire Emblem. Là, il y a une espèce de shield assez malin où tu pètes un shield et ensuite, t'as ensuite des espèces de petites unités de shield à buter à chaque généraux. Et ensuite, tu peux passer... Tu peux lui défoncer la gueule une fois que ces unités de shield sont passées. Mais du coup, ils ont un petit peu moussouisé plutôt Devil May Cry, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a plus d'esquives et de parry et de choses comme ça qui sont mieux timées, c'est mieux réfléchi, c'est vraiment pas mal. Il y a vraiment une structure très, très, très moderne. Je suis encore en train d'y jouer, donc j'ai un peu du mal à mettre le doigt sur ce qu'ils ont changé. Mais en tout cas, il y a vraiment une manière de jouer le jeu qui est très différente. Il y a une gestion d'XP, puisque tu peux faire des petites escarmouches qui durent une ou deux minutes et qui te font progresser tes aptitudes et tu peux looter des trucs. C'est vraiment bien, bien, bien pensé. C'est un jeu où t'as même envie d'utiliser tous les items, de découvrir toutes les facultés de craft et aussi de progresser les capacités de ton personnage. C'est vraiment le Dynasty Warriors génial par lequel entrer. Je sais pas si ça va servir de template pour tous les autres Dynasty Warriors à venir, mais en tout cas, c'est génial. Il y a vraiment plein de bonnes idées. Et tu sens qu'ils ont vraiment réfléchi à comment faire évoluer la formule. C'est un bon exemple de remaniement d'une recette qui finissait par se répéter, même s'il n'y a pas eu de vrai Dynasty Warrior qui se passe en Chine depuis 7 ans, je crois. Le dernier, ça devait être en 2018, donc ça fait quand même un sacré bout de temps. Et le dernier était un flop, ils ont essayé de moderniser et ça a foiré. Et là, tu sens qu'ils ont vraiment travaillé leur truc et c'est absolument jouissif. Donc, c'est Dynasty Warriors Origins. Si vous aimez les mousseaux, si vous avez aimé un jour les mousseaux, essayez, c'est vraiment super.
Alors tu vois, c'est marrant parce que des mousseaux, j'en ai fait plusieurs, mais je me rends compte que j'ai jamais joué à la série d'origine. En fait, j'ai jamais joué à un seul Dynasty Warriors.
Ah ouais ?
Bah non, j'ai fait...
Bah écoute, ça vaut vraiment le coup.
J'ai fait le premier mousseau Zelda, j'ai fait le mousseau Dragon Quest. J'ai fait les deux mousseaux Dragon Quest.
T'as fait Gundam ?
Ah, j'ai pas fait Gundam, j'ai fait Berserk.
Ah, il y a Berserk, oui, c'est vrai.
Mais tu vois, Dynasty Warriors, j'ai jamais fait.
Il y a Berserk et il y a Attack on Titans qui est un peu un mousseau aussi.
Et puis je me rends compte aussi que j'ai un autre jeu vidéo que j'ai terminé hier que je pourrais dont j'aurais pu parler. Je pense que je me le garde pour la prochaine reco, mais il est en solde en ce moment, donc profitez-en si jamais vous ne l'avez pas fait. C'est Star Wars Jedi Fallen Order. Il est, je le vois, à $7 sur PS5 à l'heure actuelle, donc si jamais vous ne l'avez pas fait.
C'est celui de l'année dernière ?
C'est celui de l'année dernière. C'est pas le dernier, là, c'est celui, c'est le premier.
Ah, d'accord. Attends, c'est le premier, tu veux dire le deuxième ?
Alors, non, c'est le premier, parce qu'il y a Star Wars Jedi Fallen Order, il y a Star Wars Jedi, je sais pas comment il s'appelle, le suivant, et puis il y a Star Wars Outlaws qui est sorti, là, qui est Ubisoft. Moi, d'accord. Je parle du premier de EA.
D'accord, le premier. Ouais. Écoute, beaucoup de gens m'ont dit que c'est un peu le mousseau de...
Non, c'est Dark Souls. C'est le Dark Souls de Star Wars.
Pardon, le Dark Souls ouais. De Star Wars. Et moi, je suis tombé contre une chèvre de l'espace, là, ou un oui, mouton oui. De l'espace qui m'a défoncé. Et j'ai fait non, c'est bon.
dans Sekiro, il y avait les coqs qui te défonçaient. Là, c'est bon, c'est un mouton, c'est pareil.
Ouais, non, j'ai fait, mais il paraît que le level design est vraiment super.
Ouais, le level design rappelle vraiment les From, en fait.
Ouais, ouais.
Moi, c'est tout ce que j'ai aimé dans Dark Souls, sans ce que je déteste dans Dark Souls, donc vraiment, ça m'a beaucoup plu.
Non, bah écoute, tant mieux alors.
Donc j'en parlerai plus en longueur la prochaine fois.
On va remercier les gens qui nous soutiennent. C'est-à-dire qui nous soutiennent sur Patreon, patreon.com/RPU. Merci encore de nous soutenir, ça nous permet de produire ces épisodes. Et de produire ces épisodes, c'est vrai qu'on en a moins produit depuis janvier, parce qu'il y a eu des incendies. Mais on est content aussi que tu ailles bien. En fait, moi, je te le dis à titre personnel.
Ouais.
Je me suis inquiété. Je sais pas si t'as senti.
Un petit peu, oui. Daniel me demandait des nouvelles tous les jours. Hein, je peux vous le dire. Il me demandait presque plus de nouvelles que mes parents. Donc.
Oui. Moi, je te demandais des nouvelles tous les matins. Je voulais que ça tombe, avoir au moins des nouvelles le matin. avoir un truc, avoir un update et tout ça. Et c'est vrai qu'on s'est un peu inquiété. Je regardais la carte en même temps, je regardais les photos, c'est un peu angoissant. Et ouais, mais écoute, l'important c'est que toi et les tiens, vous, vous allez bien.
On a des projets pour 2025 aussi. On a le retour de la moto de qui déjà.
C'est vrai.
Et puis voilà, et puis bon, hein, le running gag, c'est, ce serait bien de faire un épisode du Growlcast et puis de faire un Parlement Luc.
Mais on va le faire.
Mais écoute, là je regarde les prévisions météo et je vois que lundi, donc demain, ça va souffler très fort. Donc écoute, on va surveiller les feux, hein, demain, parce que ça craint là.
Et attends, ça brûle encore?
Ah oui, les feux ils brûlent toujours, oui. Le Eaton Fire et le Palisade Fire, ils brûlent toujours.
Le Palisade, il est encore actif?
Ah oui, il est toujours actif, oui.
Quelle horreur, mais quelle horreur.
Attends, je vais regarder où on en est du containment, mais... Alors, le Palisade Fire, il est maîtrisé à 52%. Le Eaton Fire, il est maîtrisé à 81%. Mais vu que demain, donc, on nous promet des bourrasques de vent qui vont à 21 mètres seconde. Alors attends, en kilomètres heure, ça fait combien ça? Ça fait 75 km heure. Bon, ça va, c'est pas les trucs à 120 comme on avait la semaine dernière, mais 75 km heure, ça fait quand même des petites bourrasques, quoi. Donc, on espère que demain, tout va bien se passer.
Bon, j'espère. Je croise les doigts pour tous les habitants, en fait. Hein. Et normalement, ceux qui sont à risque, normalement, sont évacués, mais quand même, c'est un peu alarmant. Et mais écoute... Heureusement, les États-Unis, il y a rien de mal qui peut arriver demain.
Ah bah, il y a absolument rien qui se produit demain, non. Demain, c'est Martin Luther King Day, donc c'est une belle journée où on parle vivre ensemble, où on parle antiracisme, coexistence.
Attends, c'est pas demain que est intronisé le nouveau président ?
Bah si, mais c'est le jour de MLK Day, justement. C'est ça qui ajoute l'insulte.
Oh là là.
L'insulte est totale, Daniel.
Ah bah écoute. Voilà, donc vous savez que nous avons enregistré ce podcast entre la nuit de dimanche à lundi. Voilà.
Ah bah, vous savez qu'on a enregistré ce podcast le dernier jour de démocratie américaine. Voilà.
Wow, écoute, peut-être avec un peu de chance, dans 4 ans, on en reparlera.
Peut-être.
On vous embrasse très fort. En tout cas, merci de nous soutenir et bon courage à toi, Benji, avec les incendies. Et puis, j'espère que t'es les tiens, les collègues et les amis. Et...
Avec un peu de chance, les incendies, ce sera le moins de mes soucis demain, tu verras.
Non, écoute, on verra. Oh, écoute, soyons pas pessimistes en ce premier épisode de début d'année, s'il te plaît.
Ouais.
On vous embrasse très fort. Merci de nous soutenir. Ça, c'est vraiment très important. Et merci de votre aide. Et ça nous a permis de produire un
live, ouais.
Un épisode live et puis de reproduire et de produire cet épisode que vous écoutez actuellement. On embrasse Baptiste, notre monteur. Et puis il aura un peu de boulot sur cet épisode parce qu'il est un peu plus long.
Et Baptiste, qui on le rappelle, est ingénieur du son et qui donc s'occupe du montage. Il n'est pas juste monteur. C'est un homme de multiples talents.
Oui, il
n'est
pas juste monteur. C'est un homme de l'oreille parfaite. Et on vous embrasse très fort et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao.
Un gros bisou. Ciao.
Et j'ai pas encore préparé l'épisode du gravage dans le vent, mais bientôt il faudra. Mais j'ose pas dire le mot vent en ce moment.
Ouais, bah écoute, je viens de voir un post sur Reddit disant Here we go again avec les prévisions de vent pour demain. Donc ouais, bah écoute, cool. Oui.
Bon, écoute, je vais couper.
Et moi aussi.
Aïe.
Pendant que tu googles, Daniel, j'ai une devinette pour toi.
Ouais, vas-y.
Écoute ça et essaie de deviner ce que c'est, ce bruit.
Non, je sais pas.
Tu as entendu quelque chose quand même ?
Un bouquin ?
Eh bien, c'est mon exemplaire de Bridge to Bad City par Ernest Cline qui va nous servir pour le retour de la moto de qui déjà.
Bah voilà, on a le bonus de fin.
Je suis allé en librairie hier et je l'ai trouvé. Et au début, j'avais un peu peur de pas le trouver parce que il était pas à côté d'Armada, ni de Ready Player One, ni de Ready Player Two. Je me suis dit, tiens, j'avais envie de soutenir ma librairie locale, de pas commander sur Amazon. Mais en fait, c'est parce que le bouquin était au rayon enfant, puisque les libraires ont bien fait leur travail, puisque c'est vraiment un livre pour enfants, en fait. Donc, Ernest Cline qui écrit un livre pour enfants dont la protagoniste est une petite fille, je pense que ça va être un carnage.
Ça va être pas ouf, je pense.
On va voir, mais effectivement.
Une production RPU.